Résonance rocheuse. Résonance. Résonance rocheuse. Avec Laurence Martin, artiste sculptrice fondatrice de la ferme de Tétis. Pier Paolo Brenna, conservateur à la réserve nationale de Ristola-Montviso. Et Julien Godefroy, géologue et géomorphologue à l'ONF. À la découverte des roches des Hautes-Alpes et leurs secrets. Création d'Aline Claire, dans le cadre du projet Épilogue porté par Bienvenue là-haut. Diffusion tous les lundis à 18h.
Il y a environ 180 millions d'années, on va dire au milieu de l'ère secondaire. La Tétis, elle n'est pas profonde. C'est une mer qui n'est pas profonde. Et à l'époque, nous n'y étions pas pour le savoir, mais heureusement, la science est là pour nous l'expliquer. À l'époque, en fait, on est au Jurassique moyen. La Pangée, au début de l'ère secondaire, s'est cassée en deux. Et du coup, le grand océan Pantalassa, qui est tout autour, est venu se glisser entre les deux nouveaux continents qui sont apparus sur la planète. Et donc, la mer Tétis est apparue. Mais à cette période-là, on n'est pas du tout situé au même endroit sur la Terre. En fait, on est beaucoup plus près de l'équateur. Nous, ici, au Jurassique moyen, à moins 180 millions d'années en arrière, je précise que c'est le moment où il y a les dinosaures carnivores. Nous, on est sur les plages de la mer Tétis, il n'y a pas encore de montagne à ce moment-là. Et donc, il fait une chaleur torride, c'est un climat tropical. Alors imaginez les Hautes-Alpes sans les Alpes, sans les montagnes. Et imaginez-vous là, laissez partir l'imagination là. On est sur des plages de sable blanc, sur les plages de la mer Tétis. Il y a des dinosaures carnivores, alors on reste pas trop, on se planque un peu quand même. Et il fait très 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 chaud. Et il y a des endroits, il y a des plages magnifiques. Et puis il y a aussi d'autres endroits où il y a des marécages. Voilà, il fait très chaud. Tellement, tellement chaud qu'en fait, à des endroits comme la mer n'est pas profonde, à des endroits, l'eau va s'évaporer, l'eau de mer s'évapore. Et si l'eau de mer s'évapore, que reste-t-il? Le sel. Le sel qui est à l'origine du gypse saccharoïde que l'on a dans les Hautes-Alpes. Ici, en quelque sorte, c'est le sel de la mer Tétis que l'on voit. Donc le gypse saccharoïde n'est pas un sel gemme, c'est une roche saline, c'est une évaporite, on appelle ça. Mais si on regarde bien, on dit gypse saccharoïde parce que ça fait comme des effets de sucre, les cristaux. Quand on regarde bien, on voit comme des effets de sucre. C'est une roche qui n'est pas dense du tout, qui subit facilement l'érosion. Quand on va marcher dans le torrent de Boscodon, on trouve des gypses saccharoïdes extraordinaires, avec des formes incroyables, qui se laissent sculpter par le torrent de Boscodon. Et donc cette roche-là, eh bien c'est la roche mère, on va dire, pour simplifier les choses, on va dire. Le gypse saccharoïde, c'est la roche mère de l'albâtre. Quand on regarde un albâtre, à quelques endroits, par exemple sur cette sculpture-là, sur cette sculpture qui s'appelle Vanitas, Vanitatum et Omnia Vanitas, on va reconnaître à certains endroits encore quelques traces saccharoïdes, mais très peu. En fait, le gypse saccharoïde, quand les conditions sont réunies, quelquefois se transforme en albâtre. On dit qu'il va perdre son eau et donc il resserre ses cristaux. Et là, on va avoir un albâtre. Donc nous, dans les Hautes-Alpes, nous n'avons pas d'albâtre translucide, comme on peut trouver en Espagne ou au Maroc ou en Tunisie, où on trouve des sculptures translucides souvent. Nous, on n'a pas de gypse fer de lance, on n'a que du gypse saccharoïde. Donc on a un albâtre mat et un gypse mat. On n'est pas dans du translucide, il existe plusieurs gypses, quoi. Vous imaginez un petit peu, là ? Allez, on a une croûte océanique de l'Afrique de ce côté avec le continent africain. On a la croûte océanique de l'Eurasie avec l'Eurasie, là, le continent de l'Eurasie. Et voilà, tout d'un coup, que la croûte océanique bascule parce qu'elle devient trop lourde. D'abord, elle a au moins 200 millions d'années, sinon elle ne peut pas basculer. Les croûtes océaniques qui tombent en subduction, elles peuvent pas avoir plus de 200 millions d'années parce qu'elles deviennent trop lourdes. À 200 millions d'années, pouf, elles tombent. Mais l'événement qui s'est passé pour la mer Tétis, c'est que nous, on est tombés, mais la croûte africaine, elle s'est superposée à la croûte océanique de l'Eurasie de notre côté. Donc en fait, ça s'est superposé comme ça. Donc la mer Tétis, où est-elle aujourd'hui? On ne la voit plus. Il a bien fallu qu'elle passe quelque part. Donc en fait, quand la croûte océanique de l'Eurasie est tombée en subduction et que l'Afrique qui arrivait de façon assez rapide par rapport au temps géologique, paraît-il, la croûte océanique de l'Afrique s'est soulevée comme ça, eh bien la mer Tétis, elle a été avalée dans cet espace-là. D'accord ? Voilà, c'est comme ça qu'elle a disparu. Donc évidemment, l'eau, vous imaginez là, quand l'eau descend, entre la plaque qui descend de l'Eurasie en subduction là, et la plaque africaine qui part en obduction, l'océan alpin Tétis disparaît entre les deux plaques, là, comme ça. Et quand l'eau descend à une certaine profondeur, il faut quand même imaginer que si on creuse un trou sous nos pieds là, à 80 km de profondeur, on est déjà à 1000 degrés de température. Hein. Ça veut dire que l'eau, quand elle passe entre les deux plaques, entre la subduction et l'obduction, l'eau de la mer Tétis, ben, au bout de 80 km, on a 1000 degrés de température, elle va s'évaporer cette eau. Donc elle va créer des réactions chimiques et des modifications de structure des roches environnantes et ça va créer plein de choses extraordinaires. Il y a le canal serpentineux, il y a la croûte en subduction de l'Eurasie. Il va y avoir des fragments de cette croûte qui vont se détacher. Il y a un morceau du continent de l'Eurasie qui va descendre en subduction. Et c'est incroyable, quoi. Il y a un canal serpentineux qui va faire remonter le Kérin, qui va faire remonter le Chenaillet, qui va faire remonter tout ça en prenant le canal serpentineux, quoi. Bon, évidemment, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Ça, je dois dire. Dans la mer Tétis, j'en profite pour le dire, il y aura une multitude de nouvelles roches qui vont apparaître, grâce en particulier au volcan sous-marin, hein, d'accord, qui va créer des métamorphismes et tout ça. Et toutes les roches qui naissent dans la mer Tétis, on les appelle des roches alpines. Donc si on se met par exemple au milieu de l'ère secondaire à moins 180 millions d'années, eh ben en fait on a l'Eurasie, donc l'Europe et l'Asie qui forment un grand continent. Il y a la mer Tétis qui est tout le long des rives de l'Eurasie. Eh ben en fait toutes les roches qui naissent dans la mer Tétis jusqu'en Asie seront des roches alpines. On les appelle des roches alpines. On va au Japon, on a des roches alpines. En Égypte, on a des roches alpines. Les sculpteurs d'ordinaire dans les Hautes-Alpes ne travaillent que quelques pierres, des pierres qui avaient été exploitées. On n'avait plus ouvrir des carrières parce qu'il y avait des filons importants dans les montagnes, donc possibilité d'exploiter la roche. Dans les roches d'œuvre des Hautes-Alpes, il y en avait essentiellement 6, avec le cipolin blanc et le cipolin rose de la Motte en Champsaur. C'est sur la route de Grenoble. Quand on part de Gap, on traverse tout le Champsaur. À la Motte en Champsaur, on a le cipolin blanc et rose qui sont les roches les plus anciennes que personnellement je travaille, et une présence très ancienne puisqu'elle date de l'ère primaire, celle-ci. On est à moins 325 millions d'années en arrière. C'est un vestige de la chaîne hercynienne qui est resté visible à la Motte-en-Champsaur. Et tout autour, eh ben, on est plutôt dans l'ère secondaire et tout ça, quoi. C'est vraiment un vestige de l'ère primaire, moins 325 millions d'années, pour cette roche dont les carrières ont été abandonnées en 1950, il me semble. Oui, c'est ça, 1950. Après, en roche d'œuvre destinée à la sculpture, des carrières, il y avait donc le cipolin, il y avait un tout petit marbre à Névache. La carrière a été abandonnée en 1930, donc ça, c'est vraiment pas connu en fait, c'est complètement oublié. Même moi, quand je suis allée sur place, j'arrivais pas à retrouver la carrière. Quand c'est arrêté en 1930, comme ça, la végétation a repris le dessus. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai croisé un petit pépé qui n'avait pas été enfermé en EHPAD. Donc j'ai pu lui demander s'il savait à quel endroit était la carrière et il a pu m'indiquer à quel endroit elle était. C'est ainsi que je l'ai retrouvée, quoi. Sinon, elle était complètement perdue, cette carrière. Donc là, on a des exemples du petit marbre de Névache, carrière abandonnée en 1930. Le fameux ver des Alpes, alors ça c'est une roche d'œuvre très connue des Hautes-Alpes, c'est la copine des serpentines. Elles poussent, elles vivent ensemble. Donc évidemment, Saint-Véran, tout ça, on trouve plein de carrières de marbre vert. On en a aussi en Ubaye, en particulier celle de l'Ubaye, celle de Maljacé, c'est celle qui a fermé en dernier, elle a fermé en 1970. Donc ça, c'est une roche connue encore des sculpteurs d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si beaucoup font la différence entre les serpentines et les marbres verts, qui ne sont pas les mêmes pierres. Quand on étudie la géologie, on n'est pas dans les mêmes roches, en fait. Mais elles vivent côte à côte, elles vivent ensemble souvent. Voilà, après dans les Hautes-Alpes, en roche d'œuvre, on avait... Ah pardon, ce n'est pas une roche d'œuvre, c'est le marbre d'Orpierre. Alors là, on descend dans le sud du département, il y avait des carrières à Orpierre, le nom du village, ça parle aussi. En fait, le soleil, quand il se lève, il tape sur les falaises d'Orpierre, du village d'Orpierre, et donc on voit apparaître les dorures dans ce beau marbre blanc. Alors, ces carrières ont été exploitées, non pas, c'est pas une pierre qui est utilisée en roche d'œuvre, c'est une pierre qui était utilisée pour l'extraction du zinc, elle contient beaucoup de zinc, parce que les pierres, c'est le début de tout. Dans les roches, on a tous les éléments chimiques possibles, inimaginables, tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev sont là, donc on peut trouver de tout, et à Orpierre, on trouvait du zinc. Donc ça, je viens de parler des... Combien il y en a ? Une, deux, trois, quatre. Il manque celle de Guillestre. Donc une roche d'œuvre encore. C'est la dernière carrière exploitée, celle de Guillestre. Toutes les autres ont fermé. Donc celle d'Orpierre, elle a fermé en 1930 pour l'extraction du zinc. Sinon, la dernière roche d'œuvre exploitée dans les Hautes-Alpes, c'est le calcaire amygdalaire de Guillestre, qui est communément appelé marbre de Guillestre, mais qui, quand on s'intéresse à la géologie, on constate rapidement que ce n'est pas un marbre. Les marbriers, souvent, disent que c'est des marbres à partir du moment où ça brille. Vous voyez, ça prend le polissage. Cette carrière qui est à nouveau en activité, parce qu'en fait, elle avait été interrompue pour des raisons écologiques. Pendant une vingtaine d'années, la carrière a été fermée, alors que les gens qui tenaient la carrière l'exploitaient de père en fils depuis longtemps. Et pendant une vingtaine d'années, elle a été fermée parce que, en fait, cette roche, qui n'est donc pas un marbre, contient des fossiles. Donc dans les marbres, il n'y a pas de fossiles, évidemment. Dans le calcaire amygdalaire de Guillestre, on a des fossiles. La mairie, pendant plusieurs années, a décidé de ne plus permettre l'exploitation de cette carrière pour des raisons scientifiques, en fait, pour pouvoir étudier les fossiles. Alors bon, je ne connais pas vraiment l'histoire géologique de cette nappe. Je crois qu'elle vient de Belgique, qu'elle passe à Guillestre. Je sais en tout cas que cette nappe, elle va mourir aux aiguilles de Chabrière, dans l'Embruné. Donc je veux dire, les fossiles, on les a sur une très longue distance. Donc c'est la dernière en exploitation, elle a été réouverte il y a 8-10 ans à peu près. Donc on peut à nouveau acheter des pierres de Guillestre pour construire sa maison, une maison rose.
Vous venez d'écouter Résonance Rocheuse par Aline Claire.